je reviens un peu en arrière parce que
précisément les présupposés de cette temporalité et de ce travail numérique, et d'ailleurs on verra si on peut encore parler de travail à l'époque numérique, il suppose que l'on sache ce qu'est le travail et le temps tel que l'on l'a hérité de la révolution industrielle. Alors un petit point de méthode, vous verrez, donc j'utilisais ce PowerPoint parce qu'il va y être question d'énormément de textes que je voudrais lire avec vous, parce que d'une part il me semble important d'en revenir dans une sorte de volonté philologique d'en revenir au texte pour mieux comprendre, et aussi parce que ne sachant pas exactement les disciplines de chacun, je pense que c'était mieux comme cela de permettre à tout le monde d'être sur un pied d'égalité, une relative égalité. Alors, tout de suite, je vous donne le plan de cette séance. Donc, dans un premier temps, ce sera en guise d'introduction, donc la tâche et le lieu qui nous attendent. En fait, je vais présenter un texte de Frank Fischbach et on va un peu le discuter. Ça nous permettra un peu de saisir les problèmes en jeu. Ensuite, donc, dans un deuxième temps, la configuration historico-capitaliste du temps. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Là, en troisième temps, c'est une citation qu'on trouve chez Marx dans les Grundrisse, et plus exactement dans les Formen, donc les formes antérieures à la production précapitaliste, à la production précapitaliste, antérieure à la production capitaliste. Donc le procès historique n'est pas le résultat du capital, mais son présupposé. Dans un quatrième temps, on en arrivera à la conversion à l'histoire, le cas de l'Algérie coloniale. Donc là, il va être plus particulièrement question d'un travail de Pierre Bourdieu, donc qui s'intitule « Algérie 60 », et dans lequel, précisément, on essaye de penser les problèmes de temporalité liés à l'industrialisation de l'Algérie. Et enfin, c'est le texte que j'ai distribué. J'espère pouvoir arriver jusque-là aujourd'hui. Sinon, ça sera une très bonne introduction pour faire le lien demain au numérique. Je voudrais vous proposer une lecture, donc commentée, d'un extrait du manifeste du Parti communiste. Donc c'est ce que vous avez devant vous. Donc c'est cette page recto verso. Alors, la tâche et le lieu qui nous attendent. Donc je rentre directement dans le vif du sujet. Donc ceci, c'est à la toute fin du troisième et avant-dernier chapitre d'un livre de Frank Fischbach qui s'intitule « La privation de monde ». Ce chapitre, il s'intitule « Capitalisme et vision historique du monde ». Frank Fischbach conclut ce chapitre en énonçant « La tâche qui nous attend est immense. Elle se situe vraisemblablement du côté d'une historicisation du temps qui prenne le relais de ce que Kusselek a appelé la temporalisation de l'histoire. Cette temporalisation de l'histoire qui a eu lieu au début de la modernité et que notre modernité tardive a englouti dans un présent éternel, atemporel et anhistorique. Mais la difficulté majeure qui est la nôtre pour une telle historicisation du temps, qui parvienne à lui donner la profondeur d'un temps qui dure, d'un temps qui fasse le lien entre l'héritage d'une tradition et l'horizon d'une attente, la difficulté, donc, c'est que l'agent ou l'acteur d'une telle historicisation du temps n'est plus pour nous aussi immédiatement disponible qu'il l'était encore pour Lucas sous la figure du prolétariat. Mais à défaut d'avoir l'acteur, peut-être est-il quand même possible d'indiquer le lieu de cette transformation consistant en une réhistoricisation du temps. Si la difficulté majeure de l'identification d'acteurs historicisants, énoncée par ce livre publié en 2011, si donc cette identification peut désormais nous paraître, sinon désuète, du moins datée, on peut simplement penser au mouvement des Gilets jaunes, à tous ces mouvements de contestation de par le monde, donc l'acteur n'est peut-être plus si difficile à identifier, reste néanmoins que c'est à l'endroit à la fois de la tâche qui nous attend et de son lieu qu'il s'avère sans doute primordial aujourd'hui de se montrer circonspect, c'est-à-dire à l'endroit à la fois de cette transformation consistant en une réhistoricisation du temps, d'une part, et de la reconfiguration du travail qu'elle paraît présupposer. Donc le lieu, le travail, la tâche qui nous attend, la réhistoricisation du temps. C'est que, semble-t-il, la tâche qui nous échoit aujourd'hui et qui, dès lors, précisément, ne nous attend plus, ou mieux, ne peut plus attendre, soit non plus celle d'une laborieuse réhistoricisation du temps, mais celle de sa politisation, cela même de nous dégager des ornières de la configuration historico-capitaliste du temps. Je reviendrai sur cette politisation plutôt demain en conclusion de la seconde, du second séminaire, de la seconde séance du séminaire. Donc on en vient au premier point de la configuration historico-capitaliste du temps. En usant de cette formulation, configuration historico-capitaliste du temps, j'entends ici d'emblée marquer ma réserve à l'égard de ce que Fischbach nomme curieusement, dans le quatrième chapitre de son livre, Le monde du travail, ce qu'il nomme la défiguration de la temporalité historique. Cette réserve, elle tient au fond au fait que Fischbach paraisse pour partie y faire fi des réflexions en tout point judicieuses, des réflexions développées dans le chapitre précédent quant à la constitution capitalo-bourgeoise de la conscience historique, ou pour le dire autrement, quant à l'apparition historique de la société bourgeoise. La première qui, relevait-il, puisse se concevoir elle-même comme une société historique, c'est-à-dire à la fois comme la seule société qui soit née historiquement et comme la seule société qui fasse constamment histoire. Je cite un plus ou moins long passage de Fischbach. « Ce que Marx permet de comprendre, c'est qu'une telle vision historique du monde, comme flux d'une histoire progressive et cumulative, ne pouvait se constituer que dans la société bourgeoise moderne. Il fallait pour cela l'apparition d'une société qui parvienne à libérer d'une manière totalement inédite toute la puissance du travail social et qui parvienne par là à mettre sous son joug la puissance de la nature d'une manière totalement improbable jusqu'ici. Seule une société se pensant libérée de la nature peut aussi se penser comme historique. Marx montre ainsi que la conscience historique et la vision historique du monde sont elles-mêmes des produits historiques. En effet, souscrivant mais aussi et surtout étayant d'abord l'idée éminemment marxienne selon laquelle la rupture qu'a représentée la naissance de la société bourgeoise a été une entrée dans l'histoire, un commencement de l'histoire. Fischbach paraît ensuite, et paradoxalement, s'interdire de penser une forme autre de temporalisation sociale, qui ne se réduise plus seulement à une autre forme de temporalisation historique et sociale. Et partant, il s'interdit d'envisager un régime autre de temporalité qui ne se limite pas à un autre régime d'historicité. Comme si l'unique alternative, on pourrait dire l'unique alternative temporelle, l'unique alternative temporelle à l'histoire, ou plus spécifiquement à l'histoire aliénée de notre modernité tardive, ne s'avérait être in fine que l'histoire elle-même, c'est-à-dire l'histoire immaculée du début de la modernité. Se condamnant ainsi à assimiler l'impasse de l'historicité, à savoir l'anhistoricité, ce qu'on nomme aujourd'hui par exemple le présentisme, n'assimilant donc l'impasse de l'historicité qu'à une sorte, sinon d'incident, du moins d'accident, au sens qu'octroie notamment Aristote à ce mot, par opposition à la substance, Fischbach semble, contre toute attente, ne jamais être en mesure de s'exempter des prérogatives de l'histoire. Histoire dont pourtant, il n'aura eu de cesse d'indiquer, en revenant à Marx, qu'elle ne saurait manquer non seulement de participer à et de l'avènement de la société bourgeoise, mais aussi et surtout à et de sa pérennisation. Je cite Fischbach, « Nous montrions précédemment, avec Marx, que c'est dans la société capitaliste que se forme une conscience historique et que se constitue une vision historique du monde. Mais ce qui est tout aussi caractéristique de la société capitaliste, c'est sa tendance à s'accepter elle-même de la conscience historique qu'elle forge de toutes les sociétés autres qu'elle-même. C'est là quelque chose que Marx a formulé assez tôt, sans attendre les Grundrisse ou le Capital, en l'occurrence des Misères de la philosophie. Il attribue ainsi, dans ce texte, aux économistes classiques une vision des choses qu'il résume en ces termes « Il y a eu de l'histoire, mais il n'y en a plus ». Ce qui veut dire que, selon les économistes classiques, il y a eu de l'histoire jusqu'à ce qu'on parvienne enfin aux rapports sociaux de type capitaliste, qui sont les seuls rapports dans lesquels se crée la richesse et se développent les forces productives conformément aux lois de la nature. De sorte que ces rapports sont comme des lois, ils sont nécessaires, indépendants de l'influence du temps et donc éternels. Aussi, la société bourgeoise peut-elle se concevoir comme étant le produit d'une longue histoire, mais d'une histoire qui s'arrête avec elle-même, puisqu'avec elle sont atteints les rapports sociaux les plus conformes à la nature, ceux auxquels il n'y a plus rien à changer, ceux qui ne peuvent que se reproduire à l'identique dans un perpétuel présent. Or, que la bourgeoisie ait été en mesure de proclamer, par l'entremise de ses représentants scientifiques, les économistes, qu'il y a eu de l'histoire, mais qu'il n'y en a plus, soit de faire passer, en et à la faveur de l'histoire, ses rapports de production pour naturels et partant éternels, qu'elle ait été, la bourgeoisie, en mesure de chercher à s'y abriter de l'influence du temps, ou réciproquement, qu'il ait comme fallu, pour ainsi dire, à l'histoire, attendre l'avènement de la société bourgeoise pour sinon se produire, du moins s'accomplir, qu'il lui ait donc fallu, autrement dit, attendre de celle-ci qu'elle la libère, que la bourgeoisie libère l'histoire, de ce qui concourait encore à en entraver le cours triomphaliste et par là même en différer la fin. Bref, que la consécration de l'histoire ait toujours déjà eu partie liée avec l'inauguration des rapports capitalistes de production, ceci ne devrait-il pas tout du moins suffire à nous enseigner qu'il ne saurait être question, contrairement à ce que assure Fischbach, d'envisager un autre régime d'historicité alternatif au mode d'historicité actuellement régnant. Si l'on veut sortir du capitalisme et que l'histoire permet au capitalisme de se perpétuer, peut-on en appeler à l'histoire pour sortir du capitalisme ? Force, je passe... Ah, j'avais oublié de vous lire une partie qui était en deux. Alors, on passe donc à la troisième partie. Le procès historique n'est pas le résultat du capital, mais son présupposé. C'est ce qu'on vient, en un sens, de dire. Force nous est néanmoins de constater, certains l'auront sans doute anticipé, qu'en en restant à cet enseignement, nous ne ferions au mieux que rendre compte de la part émergée du problème. C'est-à-dire, comme le notait si judicieusement Marx à propos de Feuerbach, on ne ferait que susciter la conscience juste d'un fait existant, celui de la connivence de l'histoire et du capital. Et au pire, comme Marx l'indiquait à propos de Saint-Bruno cette fois, on ne ferait que partager la croyance illusoire qu'une modification de la conscience et une orientation nouvelle de l'interprétation des rapports existants pourraient entraîner un bouleversement révolutionnaire du monde entier tel qu'il a existé jusqu'ici. Par là, en en restant là, nous risquerions d'entériner ce qui, à bien des égards, ne paraîtrait dès lors plus n'équivaloir qu'à une sorte de fâcheuse coïncidence, à savoir celle de deux processus, l'un pourrait-on dire temporel, l'histoire, et l'autre économique, le capitalisme. Processus qui n'aurait eu à se conjuguer que pour un temps, et un temps seulement. Aussi nous faudra-t-il, sans plus attendre, sans plus pouvoir attendre, en venir ou formellement en revenir, cette fois à la part immergée du problème. C'est-à-dire, au fond, à ce qui, d'une part, comme l'expose si bien Jean-Luc Nancy dans L'Histoire finie, constituerait le noyau de la pensée de l'histoire, à savoir la question du commencement, de l'ouverture ou de l'entrée dans l'histoire. Il faut donc nous en revenir d'une part à ceci et d'autre part, mais non moins concurremment, à ce qui paraît indéfectiblement arrimé, ce début de l'histoire, cette question, celle de l'entrée dans l'histoire, ce qui permet l'arrimer à celle de l'apparition des rapports capitalistes de production, à savoir, on l'a déjà évoqué rapidement, la libération de l'homme de la nature, ou plus rigoureusement, sa libération de la nature en tant que travailleur. Ce que, du reste, on va le voir, on va y insister, Marx n'aura eu de cesse de suggérer dans les Formen, au point d'en conclure, au gré d'une formule d'une incommensurable portée philosophique, que le procès historique n'est pas le résultat du capital, mais son présupposé. Car, comme l'explicite Marx, pour que le travailleur trouve les conditions objectives du travail donné comme séparé de lui, comme capital, et pour que le capitaliste trouve le travailleur dépouillé de toute propriété, dans l'état de travailleur abstrait, l'échange tel qu'il se produit entre la valeur et le travail vivant suppose un procès historique. Procès historique qui, comme nous l'avons vu, constitue l'histoire de la genèse du capital et du travailleur salarié. Et plus loin, le comportement du travail par rapport au capital ou aux conditions objectives du travail en tant que capital présuppose un procès historique qui dissout des différentes formes dans lesquelles le travailleur est propriétaire ou le propriétaire travailleur. Précisons, avant de poursuivre, et afin de prévenir toutes mes compréhensions, ce que depuis et avec Marx, nous qualifions ici de nature et de travailleur. Par nature, nous entendrons ici désigner ce laboratoire approprié, non par l'homme, mais approprié à l'homme, et dans lequel, comme l'analyse Marx, à proprement parler, l'homme n'a pas de rapport avec ses conditions de production. Donc ce que l'on entend par nature, c'est cette terre idoine et par là même inappropriable, puisque toujours déjà appropriée. Cette terre qui est seulement consommable en l'état comme fond de consommation. Par travailleur, nous entendrons ici désigner non seulement le travailleur potentiellement libre, au sens où l'entend Marx, à savoir potentiellement libre de tous ses biens antérieurs et de toute forme d'existence objective et matérielle, bref, libre de toute propriété, mais bien plutôt, par travailleur, nous entendrons le travailleur conscient de lui-même en tant que travailleur, c'est-à-dire se pensant et s'expérimentant se pensant parce que s'expérimentant comme une puissance de transformation d'une nature, nature que je cerne de guillemets, d'une nature qui en retour, comme l'a si magistralement établi Marx, ne lui apparaît dès lors plus comme condition naturelle de production, mais comme fond libre. Une chose est claire, relève Marx, ce même procès, procès qu'il qualifie expressément d'historique, qui a séparé une quantité d'individus de leurs relations intérieures, d'une manière ou d'une autre, affirmative par rapport aux conditions objectives du travail, qui a nié ces relations et qui a ainsi transformé ces individus en travailleurs libres, ce même procès a, potentiellement, libéré ces conditions objectives du travail, terroir, matériaux bruts, moyens de subsistance, instruments de travail, argent ou tout cela à la fois, il les a libérés du lien qui les rattachait antérieurement aux individus désormais détachés d'eux. Ils existent encore, mais sous une toute autre forme, comme fonds libres. En d'autres termes, ce que nous entendons par conséquent désigné ici par « travailleur » n'est autre que cet agent agissant qui, parvenu à un certain stade du développement des forces productives et des rapports de production, un agent agissant qui n'est plus en état de dénier sa capacité à transformer le monde, c'est-à-dire sa capacité à le fétichiser, ou pour user d'un néologisme salutaire de Bruno Latour, à le fétichiser sous le concept de nature. Alors j'ai quand même noté la manière dont
Latour écrit fétichiser. Donc, normalement, en français, ça s'écrit comme ceci. Donc, Latour écrit, je dis de bêtises, fétichisation des faits, une construction, pour faire court. Vous voyez la différence?
Alors, je reprends ce que j'entends donc par travailleur, c'est un agent agissant qui ne peut plus dénier, qui ne peut plus nier sa capacité à transformer le monde, sa capacité à le fétichiser, ou, pour reprendre le néologisme de Latour, à le fétichiser. Les choses vont s'éclairer au fur et à mesure. Je cite, pour bien qu'on comprenne, un extrait donc d'Algérie 60 de Pierre Bourdieu. Si peu efficace soit-elle, l'action du paysan, comme l'analyse d'un Bourdieu, transforme la nature en lui faisant violence, mais elle ne peut s'apparaître comme telle. Un tel aveu à soi-même suppose une conversion du rapport entre l'homme et le monde. Alors, retenons ici le terme de conversion, sur lequel on reviendra plus tard, au moment de la conversion à l'histoire, mais ici on a une première occurrence de ce terme de conversion du rapport entre l'homme et le monde. Convaincu qu'il ne dispose d'aucun moyen d'agir efficacement sur son propre futur et sur le futur de sa production, le paysan ne se sent pas responsable que de l'acte, non du succès ou de l'échec, qui dépendent des puissances naturelles ou surnaturelles. Donc là, c'est le paysan des sociétés que Bourdieu qualifie de précapitalistes, les sociétés algériennes des années 60, qu'il qualifie de précapitalistes. Vous avez en dessous un petit passage des Formen qui montre bien une sorte d'écho entre le texte de Pierre Bourdieu et celui de Marx. Donc vous voyez, on a d'abord qui dépendent des puissances naturelles ou surnaturelles, et on trouve dans les Formen, on trouve cette phrase qui permet de bien voir comment les choses se lient entre Marx et Bourdieu, puisque ça va être de plus en plus lié, intercalé. L'appropriation réelle par le procès de travail s'effectue sur la base de ces présupposés, qui ne sont pas eux-mêmes les produits du travail, mais apparaissent comme ces présupposés naturels ou divins. Donc ce ne sont pas des présupposés créés par l'homme, produits par l'homme, ce sont des présupposés considérés par l'homme comme naturels ou divins. Je continue la lecture de Bourdieu, je reprends, « Le travail, en tant que tel, apparaît lorsque, et seulement lorsque, la remise de soi, indissociable du sentiment de la dépendance, fait place à l'agression avouée. » On passe donc d'un déni à un aveu. « À l'agression avouée contre une nature débarrassée des enchantements de la magie et réduite à sa seule dimension économique. Dès lors, l'activité agricole cesse d'être un tribut payé à un ordre nécessaire. Elle est travail, c'est-à-dire action orientée vers un ordre possible qui ne peut advenir que par la transformation du donné actuel. » Aussi bien, pourra-t-il sembler, à rebours, si on repense à la manière dont j'avais identifié, j'avais défini la nature, il pourra sembler à rebours que ce n'est non moins qu'au prix d'une sorte d'abus de langage, voire d'anachronisme, que j'avais pu qualifier de nature ce fonds de consommation, qui, comme l'analyse Marx dans les Formen, constitue pour partie ce fonds de production originel, avec lequel l'homme entretient un rapport naïf. Étant entendu que l'apparition, sinon du concept, du moins de la notion moderne de nature, présuppose l'apparition du travailleur. On ne peut penser la nature que si un travailleur apparaît. C'est-à-dire, elle présuppose leur séparation ontologique. On ne peut pas penser la nature d'un côté, il faut penser et le travailleur et la nature ensemble. Comme le relève Philippe d'Escola dans son célèbre et non moins décisif essai « Par-delà nature et culture », la nature n'a-t-elle pas en effet de sens dans la pensée moderne qu'en opposition aux œuvres humaines ? Pourtant, si abusif puisse-t-il sembler de prime abord, ce terme « nature », que donc j'écris toujours avec des guillemets, ce terme « nature » paraît néanmoins, pour autant qu'on ait précisément repéré l'abusivité, qu'on en ait repéré l'abus, le caractère abusif, il paraît néanmoins ce terme présenter l'immense avantage de pouvoir nous rendre sensibles à ce qui, sans lui, risquerait de demeurer sous-entendu dans et par le texte même de Marx. À savoir que la nature, comme l'a si bien thématisé pourtant Marx dans l'idéologie allemande, est un produit historique. La nature est également un produit historique. Et ce faisant, comme le dénote d'ailleurs si souvent la substitution par Marx de l'adjectif « naturel », désolé pour les germanophones, « naturlich », à l'adjectif originel « ursprünglich », donc il va substituer souvent « naturel » et « originel »,« naturlich » et « ursprünglich », Ursprünglich, bon, plus ou moins. Ursprünglich, bon, plus ou moins. J'ai mon accent néerlandophone qui ressort à ce moment-là, c'est encore pire. Bref, cette substitution qu'il effectue dans... on va voir ceci par la dénotation de cette substitution entre l'adjectif naturel et l'adjectif originel. On voit que le fond de production originelle, auquel l'homme se rapporte spontanément comme à son propre fond, que ce fond, donc, n'est posé par Marx qu'au seul titre d'hypothèse méthodologique ou d'idéal type. Par là, on saisira que pour Marx, la nature, toujours avec des guillemets, n'a pour ainsi dire de valeur que relative. C'est-à-dire qu'en fonction du type de rapport spécifique qui indéfectiblement l'unit au travailleur, fût-ce sur un mode oppositionnel ou négatif, que par là et partant, que ne saurait dès lors plus se voir qualifié de naturel que ce qui se présente comme tel. Le naturel, c'est ce qui se présente comme naturel, c'est-à-dire ce qui se donne pour naturel, qui se donne pour le signe de la naturalité, sous forme de présupposé. Ainsi Marx d'observer, dans l'idéologie allemande, la si célèbre unité de l'homme et de la nature a existé de tout temps dans l'industrie et s'est présentée de façon différente à chaque époque, selon le développement
plus ou moins grand de l'industrie. Et il en est de même de la lutte de l'homme contre la nature jusqu'à ce que les forces productives de ce dernier se soient développées sur une base adéquate, on pourrait dire ici appropriée. Et il ajoute plus loin, bien entendu, le primat de la nature extérieure n'en subsiste pas moins, et tout ne peut certes s'appliquer aux premiers hommes produits par generatio equivoca, génération spontanée. Mais cette distinction n'a de sens que pour autant que l'on considère l'homme comme différent de la nature. On ne peut considérer cette nature primaire, originelle, que depuis un homme qui s'en est déjà arraché. Et donc finalement, la distinction vient avant. C'est la distinction entre l'homme et la nature qui permet de penser une nature originelle. Au demeurant, cette nature qui précède l'histoire des hommes, de nos jours, n'existe plus nulle part. Naturée, la nature telle du moins que nous pouvons la concevoir depuis Marx, n'en est donc pas moins aussi naturante. Naturée, elle l'est au sens où produite, aussi bien ontologiquement qu'épistémologiquement, ou peut-être dans le sens inverse, épistémologiquement et ontologiquement, elle est naturée au sens où produite, elle est fonction du développement des forces productives. La nature dépend du type de rapport, du type de développement des forces productives. Et en ce sens-là, elle est naturée, donc, au sens passif. Mais elle est également naturante. Elle l'est en revanche, au sens où, en tant que schème d'appréhension du monde, ce que Descola qualifie lui de schème naturaliste, elle incline la nature à entériner un ordre des choses, par exemple un certain rapport de classe, et par là même à imposer comme condition naturelle d'existence du producteur tout ce qui résulte en fait de la production. Même, alors est-ce que, non, ça sera un peu plus loin, même quand la réalité sensible est réduite à un bâton, au strict minimum, comme chez Saint-Bruno, je cite Marx, malheureusement je n'ai pas reproduit ici la citation, donc je la reprends, même quand la réalité sensible est réduite à un bâton, au strict minimum, comme chez Saint-Bruno, elle implique l'activité de production de ce bâton. Marx, ici, n'avance rien d'autre dans les Formen, lorsqu'il remarque, je cite, « que même là où il n'y a qu'à trouver, il n'y a qu'à découvrir, cette activité exige donc de et par elle-même, en elle-même, elle exige bientôt un effort, un travail, comme la chasse, la pêche, la garde des troupeaux, et une production, c'est-à-dire un développement de certaines capacités de la part du sujet. C'est seulement, je continue à lire, l'activité de chasse des tribus qui fait d'une région un territoire de chasse. C'est seulement la culture des champs qui fait du terroir le prolongement du corps de l'individu. » Alors ici, c'est important ce moment où on voit qu'il y a une production qui précède ce prolongement du corps de l'individu. Je vous laisse lire en allemand. Parce que un peu plus tôt, dans les Formen, Marx identifiait précédemment ce prolongement du corps au présupposé naturel. Donc là, il en parle de ce prolongement du corps comme d'une production, et un peu plus tôt dans le texte, il la présentait, ce prolongement du corps, comme un prolongement naturel. Il dit « Rapport de l'homme à ses conditions naturelles de production, en tant qu'elles sont le présupposé naturel de l'homme lui-même, et pour ainsi dire, le prolongement de son corps. » Okay, donc on voit bien ici cette hésitation dans le texte de Marx entre quelque chose de produit ou quelque chose qui serait déjà naturel. Alors, je reprends, après cette petite parenthèse, donc nous en sommes là, le but poursuivi par toutes ces communautés précapitalistes, je continue à lire Marx dans les Formen, est la conservation, c'est-à-dire la reproduction. Le but des sociétés précapitalistes, des communautés précapitalistes, c'est la conservation, c'est-à-dire la reproduction. La reproduction de quoi ? La reproduction, donc, en tant que propriétaire, des individus qui la composent, selon le même mode objectif d'existence, qui constitue en même temps le rapport que les membres entretiennent les uns à l'égard des autres, et par conséquent constitue la commune elle-même. Mais, et c'est là le moment très important, mais cette reproduction est en même temps, nécessairement, production nouvelle et destruction de la forme ancienne. Ainsi, la conservation de la communauté ancienne implique d'elle-même la destruction des conditions sur lesquelles elle repose. Et elle, non pas se change, mais elle se change en son contraire. Donc, depuis la production, atteint un certain stade de production, la production, reproduction plutôt, devient destruction, elle se transforme en son contraire. Dans l'acte de reproduction lui-même, il n'y a pas que les conditions objectives qui changent. Par exemple, le village devient ville. La nature sauvage, la nature sauvage, terre défrichée. Mais les producteurs aussi changent, en tirant d'eux-mêmes des qualités nouvelles et des idées nouvelles, de nouveaux moyens de communication, de nouveaux besoins et un nouveau langage. C'est à un niveau déterminé de l'évolution des forces productives, des sujets qui travaillent, c'est la citation suivante, c'est à un niveau déterminé de l'évolution des forces productives, des sujets qui travaillent, niveau auquel correspondent des rapports déterminés de ces sujets entre eux et avec la nature, que s'effectue en dernière instance la dissolution tant de leur communauté que de la propriété basée sur celle-ci. Jusqu'à un certain point, ce qu'il faut retenir ici, jusqu'à un certain point, il y a reproduction. J'ai mis l'allemand pour les germanophones. Reproduction. Qui se renverse ensuite en dissolution. Certes, il ne saurait s'agir, en droit, de confondre le procès de reproduction ou de conservation avec celui de production ou de dissolution. En droit, on ne pourrait pas les confondre. Au vrai, ce sont là deux tendances contradictoires et, pour ainsi dire, vouées à entrer en contradiction. En effet, là où l'une paraît opérer par naturation des rapports de production, donc la conservation, elle essaye de naturer, de rendre naturelles les choses, donc elle opère par naturation, la reproduction. Là où celle-ci donc opère par naturation des rapports de production, l'autre, la dissolution, la production, à l'inverse, opère par dénaturation. C'est-à-dire, on y vient, par historicisation ou formellement par réhistoricisation. Non pas donc de ce qui serait naturel et qui par là même aurait de tout temps été souscrit à l'histoire, mais de ce qui, en vertu même de sa reproduction, se présente indûment comme tel. Toutefois, si cela en droit on ne peut pas les confondre, il n'en demeure pas moins que ces deux procès eurent, en fait, toujours déjà à se conjuguer. À défaut de pouvoir entièrement s'extirper l'un de l'autre, ou formellement de l'un par l'autre, de l'un au profit de l'autre, chaque civilisation, alors petite parenthèse sur le terme de civilisation, on comprendra pourquoi je l'utilise, parce que en utilisant Bourdieu, il parle dans un article plus ou moins ancien de civilisation. Aujourd'hui c'est un peu problématique d'utiliser ce terme de civilisation, mais disons que je le maintiens entre guillemets. Chaque civilisation aura ainsi eu à se constituer comme le lieu de leur inextricable conjugaison, de l'inextricable conjugaison de la conservation, de la reproduction et de la production et de la dissolution. La prospérité et la longévité de chacune de ces civilisations procédant de ses facultés à s'accommoder de l'un et l'autre de ses procès. Une civilisation pourra perdurer si elle parvient précisément à s'accommoder de manière relativement équilibrée à la fois d'un processus de dissolution, processus de production, de développement des forces productives, et de l'autre, en même temps, à se reproduire, à se conserver. Ça sera, c'est une civilisation sera plus ou moins prospère, plus ou moins longue, tiendra plus longtemps, pour le dire un peu trivialement, elle tiendra plus longtemps si elle parvient justement à trouver un équilibre entre ces deux processus, ces deux procès. Je cite Marx, « Dans toutes les formes de production précapitaliste, ce qui constitue la base du développement, c'est la reproduction. La reproduction de rapports présupposés entre l'individu singulier et sa commune, rapport plus ou moins naturel ou formé historiquement, mais devenu traditionnel. » On retrouve là cette hésitation et cette idée que la nature est relative, puisque finalement, rapport plus ou moins naturel, mais en tous les cas formé historiquement, mais devenu traditionnel. On le verra plus tard, traditionnel, ça pourrait être un autre mot pour naturel. Je reprends donc. C'est la reproduction de rapports présupposés entre l'individu singulier et sa commune, ainsi qu'une existence objective déterminée et prédéterminée pour lui, tant en ce qui concerne ses rapports à ses conditions de travail, qu'à ses compagnons de travail, aux membres de sa tribu, etc. Par conséquent, ce développement est a priori limité. Mais une fois cette limite abolie, il aboutit au déclin et à la ruine. Ainsi en va-t-il, j'ai laissé ici l'exemple de Marx quant aux Romains, pour qu'on puisse bien comprendre ici comment cela se passe, ainsi en va-t-il chez les Romains, du développement de l'esclavage, de la concentration de la possession foncière, de l'échange, du système monétaire ou de la conquête, etc. Bien que tous ces éléments aient paru jusqu'à un certain point compatibles avec la base. Rappelons-nous, jusqu'à un certain point, il y a reproduction. Bien que tous ces éléments n'aient paru jusqu'à un certain point compatibles avec la base. Et n'aient pu s'élargir, je reprends, qu'innocemment ou bien surgir d'elles-mêmes sous forme de simple abus. Il peut se produire ici, au sein d'un cadre déterminé, des développements considérables. Les individus peuvent apparaître grands. Mais, et ce mais est important, il ne saurait être question ici d'un libre et total développement, ni de l'individu, ni de la société, du moment qu'un tel développement est en contradiction avec le rapport originel, ou le rapport naturel. Jusqu'à un certain seuil, il y a donc reproduction, ou du moins prépondérance de la reproduction. Moyennant un nombre croissant d'ajustements socio-économiques, la civilisation tend à perdurer. Elle tend à perdurer, elle cherche à perdurer, elle perdure et s'y échine. C'est ce que j'appellerais le temps long, ou du moins éprouvé comme tel par ses opposants. C'est le temps long des réformes, qui sans doute, ce temps des réformes, va en s'accélérant, à mesure que les forces productives entrent toujours davantage en contradiction avec les moyens de production. Donc ce temps des réformes, que j'appelle le temps long, il y a un moment où les choses s'accélèrent, où les réformes s'accélèrent. On a un bon exemple, je pense, aujourd'hui en France, où on n'a pas le temps de se remettre plus ou moins d'une réforme, qu'il y en a une suivante qui arrive, et parfois on ne sait plus à quelle réforme on s'oppose, on n'a même plus le temps de s'y opposer. Passé ce seuil critique, le rapport se renverse. La production prend dialectiquement le pas sur la reproduction, reproduction qui avait pourtant suscité la production. De la récession, ce plafond de verre en lequel viennent comme se mirer les civilisations moribondes, de la récession, l'on passe à la dissolution, ou pour user d'un terme qui tend à se fixer dans le débat public, du moins en France, depuis 2015, et la publication par Pablo Servigné et Raphaël Stevens de leur petit manuel de collapsologie, l'on passe à la dissolution ou à l'effondrement, du latin collapsus, tomber avec ou en même temps d'un bloc s'écrouler. Ce temps-ci, c'est le temps des révolutions, celui auquel ce qui se donnait jusqu'alors pour naturel est pour partie appréhendée comme produit historique. Dans la Révolution, le naturel apparaît comme produit historique. Il n'est plus seulement contesté, ou à tout le moins suspecté, ce qui est le cas dans le temps des réformes. On suspecte le naturel, on suspecte le traditionnel, mais on ne l'appréhende pas pour autant comme produit historique. Tandis qu'ici, il n'est plus seulement donc contesté, suspecté, mais les conditions naturelles d'existence du producteur viennent à entrer en contradiction avec le développement des forces productives, et ces conditions naturelles s'y voient, dans ce temps court des révolutions, elles s'y voient suspendues. Je cite Marx, « Toutes les formes, plus ou moins naturelles, mais en même temps aussi tout résultat d'un procès historique, on retombe sur ce que j'ai pu expliquer précédemment, ces formes plus ou moins naturelles, mais en même temps aussi tout résultat d'un procès historique, où la communauté, tribale, romaine ou germaine, où la communauté suppose que les sujets constituent une unité objective déterminée avec leurs conditions de production, ou bien où une existence subjective déterminée suppose les communautés elles-mêmes comme conditions de production, correspondent à un développement seulement limité et limité dans son principe des forces productives. C'est important ici, seulement limité, limité dans son principe. Le développement, je continue à lire, le développement des forces productives dissout ces formes et leur dissolution elle-même est un développement des forces productives humaines. On ne commence à travailler qu'à partir d'une certaine base, d'abord naturelle, qui nous apparaît du moins naturelle, mais qui devient ensuite une donnée historique. Mais ensuite, cette base ou présupposition, qui par conséquent elle, qui se donne à son tour pour naturelle, est elle-même abolie, ou posée comme un présupposé historique, en voie de disparition, devenue trop étroite pour le développement de cette racaille humaine toujours en progrès. J'ai simplement souligné racaille humaine parce que la traduction de l'allemand, c'est le bloc humain. Donc, je n'ai pas bien compris pourquoi cette traduction racaille humaine. Bon, j'ai laissé en rouge parce que je voulais trouver une autre traduction. J'ai oublié de la corriger. Peut-être racaille, rocaille, je ne sais pas quelle était l'idée. Mais en tout cas, en allemand, c'est le bloc humain toujours en progrès. En outre, l'on devra remarquer que Marx identifie ici, dans le passage que nous venons de citer, un élément constitutif de cette sorte de dialectique de la reproduction, à savoir que, au sein des formes de production précapitalistes, les développements des forces productives y sont limités, on l'a déjà dit. Elles y sont limitées, mais non plus seulement factuellement, elles y sont limitées principiellement. Aussi considérables puissent-ils être, ou plus strictement ont-ils à l'être, je répète, il peut se produire ici au sein d'un cadre déterminé des développements considérables, donc aussi considérables puissent-ils être, il n'en demeure pas moins pour autant que, par principe, en principe, principiellement donc, ces développements est toujours déjà à œuvrer au sein d'un cadre déterminé, à savoir celui de la reproduction. Autrement dit, la libération de la nature n'y aura jamais été ou n'y sera jamais que parcellaire, et par là même, sinon momentanée, du moins transitoire. Attendu que ce qui peut s'y voir suspendu, au moment où les forces productives en viennent à entrer en contradiction avec les rapports de production, c'est seulement ces rapports eux-mêmes, voire, au mieux, leur prétendue naturalité. Et ce n'est pas, ce qui est suspendu, la naturalité en tant que telle. La naturalité elle-même, pour elle-même. L'exception confirme ici davantage la règle. Donc ce qui est suspendu à ce moment, lorsque les forces de production sont limitées, limitées non plus seulement factuellement, mais principiellement, c'est que ce qui est mis en doute, ce que l'on suspecte, ce que l'on suspend, j'insiste, ce n'est pas la naturalité elle-même des choses, ce n'est pas la catégorie nature qui est mise en doute, c'est plutôt ce qui apparaît comme naturel, c'est-à-dire les rapports naturels. Et on peut mettre en doute peut-être la naturalité de ces rapports, mais ce n'est pas l'idée même de naturalité qui est suspendue. Aussi, y chercherait-on en vain ce que Hannah Arendt, dans le sixième et dernier chapitre de « La condition de l'homme moderne », « La vita activa et l'âge moderne », ce que Hannah Arendt y qualifie d'étrange passion de la nouveauté ou de prétention à la nouveauté absolue. Je cite Hannah Arendt un peu rapidement, c'est surtout la fin du paragraphe qui m'intéresse. « Trois grands événements dominent le seuil de l'époque moderne et en fixent le caractère. La découverte de l'Amérique, suivie de l'exploration du globe tout entier. La réforme, qui en expropriant les biens ecclésiastiques et monastiques, commença le double processus de l'expropriation individuelle et de l'accumulation de la richesse sociale. Et l'invention du télescope et l'avènement d'une science nouvelle qui considère la nature terrestre du point de vue de l'univers. Les noms auxquels nous songeons à leurs propos, Galilée, Martin Luther et ceux des grands capitaines, explorateurs, aventuriers de l'âge des découvertes, appartiennent encore au monde prémoderne. Bien plus, l'étrange passion de la nouveauté, l'étrange passion de la nouveauté, la prétention presque brutale de la plupart des écrivains, savants et philosophes depuis le XVIIe siècle, d'avoir vu ce que personne n'avait aperçu, pensé ce que nul n'avait pensé, voilà ce qu'on ne trouve chez aucun de ces hommes, pas même chez Galilée. Ces précurseurs ne sont pas révolutionnaires, leurs motifs et leurs intentions sont encore fermement, on pourrait dire par rapport à ce que j'ai dit avant, principiellement, sont encore principiellement enraciné dans la tradition. Je cite une note, la note en bas de page qui accompagne cet extrait, qui se situe au moment, je ne sais pas si on aperçoit, au moment où elle cite Galilée, je cite la note en bas de page, l'expression « scienza nuova » se trouve apparemment pour la première fois dès le XVIe siècle dans l'œuvre du mathématicien Niccolò Tartaglia, inventeur de la balistique qu'il prétendait avoir découverte parce qu'il avait été le premier à appliquer le raisonnement géométrique au mouvement des projectiles. Je dois, précise entre parenthèses Hannah Arendt, je dois ce renseignement au professeur Alexandre Coiré. Galilée, dans Siderus Nuncius, les latinistes le prononceront mieux que moi, insiste sur la nouveauté absolue de ses découvertes. Mais on est encore loin de Hobbes prétendant que la philosophie politique date de son ouvrage Décive, ou de Descartes, persuadé qu'aucun philosophe n'a réussi avant lui en philosophie. Et c'est le dernier extrait qui m'intéresse. À partir du XVIIe siècle, la prétention à la nouveauté absolue et le rejet de la tradition deviennent choses courantes. Donc, l'idée, la prétention à la nouveauté, elle apparaît au XVIIIe siècle. On l'a compris, on se situe au moment de la révolution industrielle. Et à ce même moment, apparaît la possibilité de rejeter la tradition de manière complète. Jusque-là, on est toujours dans une limitation du rejet de la tradition. On rejette ce qui apparaît comme traditionnel, mais on ne rejette pas la traditionnalité, l'essence traditionnelle, entre guillemets. Alors, tout ce que je viens de dire pourrait ici se résumer au travers de ce schéma. Alors, comme pour tout schéma, il y a évidemment des limites, et donc c'est peut-être un peu trop simplifié, mais je pense que ça permet de bien comprendre ici ce que j'ai noté là, la dialectique de la reproduction. Alors, on voit cette dialectique de la reproduction, ce sont ces flèches, ces cercles qui s'encerclent, et qui néanmoins se développent, donc qui tendent à développer les forces de production. Je vais me lever pour vous expliquer.
Donc on a ici ce mouvement de reproduction qui donne lieu à ce que j'appelle, entre guillemets, la dialectique de la reproduction. Lorsque, je parlais tout à l'heure des récessions, lorsque l'on entre en récession, c'est le temps des réformes, le temps court des réformes, le temps long, pardon, des réformes, c'est quand on arrive ici. Okay, donc avant la Révolution, il y a toujours ce temps court, ce temps long, pardon, des réformes. Une fois ce passage de la récession, ce temps long peut s'établir ici, on a le temps court, instantané, très réduit, on a le temps court des révolutions. Succède à ce temps court des révolutions, je simplifie énormément, mais succède ce que j'appelle ici l'effondrement. Donc à ce temps court, on retombe dans un effondrement, mais on retombe dans le processus, dans la dialectique de la reproduction. Et donc, en cela, on voit que ce temps court de la révolution ne sort pas, ne parvient pas à sortir totalement de la reproduction. Et la reproduction reprend son cours. Donc, il peut y avoir des révolutions, donc, comme je dis, elles réhistoricisent le naturel, ce dont on a oublié qu'il était une production humaine. Ça peut apparaître à un moment, donc, les époques pré-capitalistes ou les sociétés pré-capitalistes, ce schéma le démontre, ne sont pas dépourvues de révolution, ne sont pas selon moi dépourvues d'histoire, mais néanmoins elles retombent, cette histoire, cette réhistoricisation, elles retombent dans cette dialectique de la reproduction. Alors, on en vient donc au quatrième point, que j'ai intitulé « De la conversion », rappelez-vous. Il est quelle heure ?
8h15.
Et on a jusque 8h30. Jusqu'à 8h30, non ?
Oui.
C'est jusqu'à 8h30.
Oui.
Bon. Bon, alors, je couperai alors à un moment et laisserai alors un peu pour demain pour qu'on ait plus le temps de discuter. Oui, merci pour l'indication. Aussi fallut-il pour que soit levé, non plus seulement factuellement, mais principiellement, pour que soit levé principiellement cette limite formelle, celle de la reproduction, que s'opère aussi une conversion. Une conversion que l'on pourrait, en première approximation, qualifier de logique. Il a fallu, pour sortir de cette dialectique de la reproduction, pour qu'on puisse enfin en sortir, il a fallu que s'opère une conversion. Et je la qualifierai, en première approximation, de conversion logique. Conversion qui, on va y venir, suppose elle-même, ou plutôt d'elle-même, en et par elle-même, qui suppose cette conversion logique, une conversion du rapport à la nature, et donc ce rapport à la nature, en un mot, on peut dire une conversion du travail, puisque le rapport à la nature, c'est ce rapport de travail, donc conversion du rapport à la nature, on peut l'appeler conversion du travail, et partant, puisqu'il n'existe de travail qu'en fonction de la nature, une conversion également de la nature. Donc conversion logique, conversion du travail et conversion de la nature. Si de cette conversion, comme l'a si remarquablement analysé François Châtelet dans un ouvrage, à mon sens par trop méconnu, donc cet ouvrage s'intitule « La naissance de l'histoire », la dernière édition en deux volumes de poche, date déjà de près de 25 ans. Ça a été republié en 96, en 96. Si de cette conversion, comme l'a si remarquablement analysé François Châtelet dans La naissance de l'histoire, l'on pourrait sans doute trouver les prémices dans la pensée hellène du 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire là où s'enracine, je cite Châtelet, la décision de faire de l'histoire. C'est important ici, j'y reviendrai sans doute pas directement, mais ici
La décision est de faire de l'histoire, pas faire l'histoire, de faire de l'histoire. Et en effet, Châtelet s'intéresse davantage dans ce livre à l'histoire en tant que historiographie, en tant que discipline scientifique, que l'histoire qui se joue dans, disons, dans le mouvement qu'on a déjà abordé. Si donc on peut déjà la découvrir ou en trouver les prémices dans la pensée hellène du 5e siècle, reste ce que c'est plutôt du côté des analyses socio-ethnographiques que Père Bourdieu menait au même moment en Algérie. Le livre de François Châtelet fut publié en 62, là où celui de Pierre Bourdieu, qui présentait les résultats d'un ensemble d'enquêtes ethnographiques et statistiques réalisées entre 58 et 61, fut rédigé en 63 et fut publié de façon abrégée en 77. Et c'est à cette édition, moi, que je me référais, celle de 77, qui est une version abrégée du travail de Bourdieu. Alors, pas abrégée d'un point de vue théorique, mais Bourdieu y a retiré les éléments socio-ethnographiques pour ne garder que les questions, disons, théoriques. Il n'y a plus la documentation sur laquelle il avait travaillé. C'est plutôt donc vers ce livre de Pierre Bourdieu qu'il me faudra prioritairement me tourner. Attendu que paraît devoir s'y manifester avec plus de clarté cette limite formelle qui, j'insiste, requiert pour être levée factuellement et principiellement, à la fois factuellement et principiellement, une conversion d'ordre non seulement technique mais logique, soit en un mot technologique. Ne nous méprenons pas toutefois que cette limite formelle puisse sembler se manifester avec plus de clarté dans le travail de Pierre Bourdieu que dans celui de François Châtelet. Ne dépend aucunement d'une différence d'acuité. Je ne suis pas en train de dire que le travail de Bourdieu est meilleur que celui de Châtelet. Ce qu'il y a ici comme différence, la différence, elle dépend plutôt d'une différence d'objet. Châtelet, entendant plutôt consacrer son étude à la constitution progressive de, je cite, « un intérêt nouveau », on aurait, précise d'ailleurs Châtelet, envie d'écrire « révolutionnaire », « un intérêt nouveau pour le temps révolu, pour le passé », c'est-à-dire, pour reprendre le sous-titre de son livre, « à la lente formation de la pensée historienne » dans la Grèce antique. Là où, à contrario, il aura plutôt fallu à Bourdieu prendre pour objet premier de l'analyse, je le cite, « le processus d'adaptation des dispositions et des idéologies à des structures économiques importées et imposées, c'est-à-dire à l'octone. » De sorte que ce qui me portera, pour ainsi dire, à donner la priorité aux analyses menées par Pierre Bourdieu dans Algérie 60, ce ne sera pas tant en raison d'une relative proximité temporelle. Ce n'est pas pour cela que je me tourne plutôt vers Bourdieu. Plus de 2 millénaires nous séparent de la Grèce classique, là où une soixantaine d'années seulement nous séparent de la guerre d'Algérie. Mais ce n'est pas pour cela que je me tourne vers Bourdieu. Ni même d'une plus ou moins longue durée d'adaptation des dispositions aux structures économiques. Ce n'est pas la durée de cette adaptation de certaines idéologies, d'une certaine pensée, de certaines dispositions à une certaine structure économique importée qui m'importe ici. En effet, la Grèce classique, c'est sur la Grèce classique que porte l'étude de François Châtelet, elle s'étend sur près de 160 ans, de la naissance d'Hérodote en moins 425 à la mort d'Aristote en 322, soit de la victoire athénienne de Salamine 480 avant Jésus-Christ à la mort d'Alexandre le Grand 323. Là où, quant à elle, la période dite de l'Algérie française s'étend de la reddition de l'émir Abdelkader en 1847, voire de la prise d'Alger en 1830, à la reconnaissance de l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 62, soit sur près de 130 ans. Donc d'un côté, on est sur 160 ans et 130 ans. Du côté algérien. Bien plus tôt, Si je me référerais aux analyses de Pierre Bourdieu, c'est en raison du fait qu'en ce qui regarde la situation de l'Algérie coloniale, les dispositions et les structures économiques, à la différence de ce qui eut à s'accomplir en Grèce au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, n'aient pu s'y développer en parallèle, ni même dialectiquement, dès lors que celles-ci, les structures économiques, y furent implantées de force par un pouvoir exogène. Donc ce qui m'intéresse ici dans l'Algérie coloniale, c'est qu'on a de manière condensée une rupture qui s'opère entre des dispositions et des structures économiques. Elles ne se sont pas développées ensemble, parallèlement, dialectiquement, si on reprend cette dialectique de la reproduction. Elles se sont produites, elles se sont développées ailleurs, ces structures économiques, et elles ont été imposées à des dispositions qui n'avaient pas évolué, qui n'avaient pas été transformées en même temps. D'où le fait que la crise ici est beaucoup plus intense. Prolongeant, en les transposant à la situation coloniale de l'Algérie française, les analyses menées par Max Weber dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, mais aussi et surtout prolongeant et transposant les analyses de Werner Sombart, les analyses qu'il a développées dans Le Bourgeois, quant à l'histoire morale et intellectuelle de l'homme économique moderne, Bourdieu observe, et donc je vous cite Pierre Bourdieu, « Le propre de la situation de dépendance économique, dont la situation coloniale représente la limite. » Et c'est donc évidemment la situation qui nous intéresse ici, la situation de l'Algérie française ou de l'Algérie coloniale. « Le propre de la situation de dépendance économique est que l'organisation économique et sociale n'y est pas l'aboutissement d'une évolution autonome de la société se transformant selon sa logique interne. » On pourrait dire selon la dialectique de la reproduction interne à cette société. Mais d'un changement exogène et accéléré, imposé par la puissance impérialiste. Dès lors, la part de libre décision et d'arbitraire qui est laissée aux acteurs économiques semble se réduire à rien. Et l'on pourrait croire que par opposition à leurs homologues des débuts du capitalisme, ils n'ont ici d'autre choix que de s'adapter au système importé. En fait, des agents élevés dans une tradition culturelle toute différente ne peuvent réussir à s'adapter à l'économie monétaire qu'au prix d'une réinvention créatrice. C'est ce que j'appelle, moi, la conversion. Une réinvention créatrice que tout sépare d'une accommodation forcée, purement mécanique et passive. En cela, ils sont plus proches de l'entrepreneur des origines que des agents économiques des sociétés capitalistes. À mesure de son évolution, l'organisation économique tend à s'imposer comme un système quasi autonome qui attend et exige de l'individu un certain type de pratique et de disposition économique, acquis et assimilé insensiblement à travers l'éducation, implicite et explicite, l'esprit de calcul et de prévision, qui est le propre, selon Bourdieu, de la pensée économique capitaliste. Cet esprit de calcul et de prévision, il tend ainsi à apparaître comme allant de soi, on dirait naturel, parce que la rationalisation est l'atmosphère que l'on respire. Pour l'homme des sociétés pré-capitalistes, ces présupposés capitalistes constituent autant d'apports étrangers qu'il s'agit d'acquérir laborieusement. Et ici, l'adverbe est intéressant, laborieusement, c'est-à-dire au travers du travail. En effet, le nouveau système de disposition ne s'élabore pas dans le vide. Il se constitue à partir des dispositions coutumières qui survivent à la disparition ou à la désagrégation de leur base économique et qui ne peuvent être adaptées aux exigences de la nouvelle situation objective qu'au prix d'une transformation créatrice. c'est-à-dire encore d'une conversion. Relativement réduite dans le capitalisme naissant, comme dans la société capitaliste avancée, la discordance entre les habitus, c'est donc des dispositions d'agir, pour faire court, des habitudes, simplifions, la discordance entre les habitus et les structures de l'économie est ici, dans le cas de l'Algérie coloniale, aussi grande que possible. Donc ici, on voit bien pourquoi cela m'intéresse de passer par le texte de Bourdieu consacré à l'Algérie 60, c'est qu'à la différence de ce qui se passe au début du capitalisme, au début de l'industrialisation, où les choses évoluant, se transformant plutôt au même moment, il n'y a pas véritablement de dissociation entre les dispositions et les structures économiques. Elles évoluent en même temps, elles se transforment en même temps au travers d'une dialectique. Et, alors, sur ce point, sans doute, Bourdieu y reviendra lorsqu'il évoque, relativement réduite dans le capitalisme naissant, comme dans la société capitaliste avancée, notamment dans Méditation pascalienne, où Bourdieu va revenir un peu sur cette idée qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de hiatus entre les dispositions et les structures économiques dans le capitalisme avancé. L'exemple, évidemment, ce sont ce qu'il appelle les hommes sans avenir, c'est-à-dire les chômeurs, qui sont précisément retirés de ces structures économiques et qui n'ont plus la possibilité d'expérimenter leur habitus au travers de ces structures économiques. Bref, je ferme ici la parenthèse, il faut juste retenir que ce texte il est des années 60 et que donc, à ce moment-là, en tous les cas, le capitalisme n'apparaissait pas à ce point, peut-être, problématique à Bourdieu. Il le voyait comme problématique, mais en tous les cas, la disposition, l'habitus, n'était pas encore en discordance avec, ce qui est le cas des générations ultérieures, avec le capitalisme qui est le nôtre aujourd'hui. S'il ne saurait être question de sous-estimer le caractère, sinon conflictuel, du moins contradictoire, nécessairement contradictoire, de ce que nous qualifions précédemment de dialectique de la reproduction, on l'a vu, les procès de reproduction et de production sont condamnés à entrer en contradiction, reste toutefois que les conflits, ou du moins les contradictions auxquelles elles donnaient lieu, demeuraient foncièrement limités. D'une part, j'insiste, limité factuellement, en ce qu'à mesure que s'y opérait le développement graduel des forces productives, s'y accomplissait une réformation, elle-même graduelle, des moyens de production, et d'autre part, j'y ai beaucoup insisté, limité principiellement, en ce que ce développement avait toujours déjà à œuvrer en et à la faveur de la reproduction. Alors même que ce à quoi l'on assiste à l'inverse, dans le cas de l'Algérie coloniale, c'est non moins qu'à un choc des civilisations. Choc des civilisations, entre guillemets, je reprends ce terme qui est en fait le titre d'un article de Bourdieu auquel je vais me référer et qu'il consacra à cette situation particulière de l'Algérie des années 60. Donc, c'est non moins qu'à un choc de civilisation. C'est-à-dire qu'à l'importation, et par là même qu'à l'irruption, dans une civilisation d'accueil d'une organisation sociale et économique étrangère, en l'occurrence une organisation capitalo-bourgeoise. Une organisation sociale et économique étrangère à laquelle rien, pour ainsi dire, n'était en mesure de la préparer, cette civilisation d'accueil. Hormis, peut-être, comme le notait Bourdieu à la suite des travaux ethnographiques de Germaine Tillion, un certain état de déliquescence interne, pourrait-on dire, particulièrement propice à l'entreprise de colonisation. C'est-à-dire que ce qui aurait pu le préparer, mais ce n'est pas véritablement le préparer, ce serait un état de déliquescence interne de la société qui l'affaiblit de l'intérieur et donne libre accès à l'entreprise de colonisation. D'ailleurs, cette déliquescence interne, on notera que l'entreprise de colonisation, elle n'aura jamais eu de cesse, elle n'aura jamais de cesse d'y asseoir sa bonne conscience. On va agir dans leur intérêt. La preuve, regardez, leur société va mal, donc imposons notre structure, aidons-les. C'est le principe civilisateur, apportons-leur la civilisation. Bref, Je cite Bourdieu et on revient à cette question du choc des civilisations. Cette société, donc cette société algérienne, a subi le choc d'une autre civilisation qui n'a pas fait éruption par pièce et par place, mais bien en totalité, en introduisant des bouleversements dans l'ordre économique, mais aussi dans l'ordre social, psychologique, moral, idéologique. Bref, en déterminant une mise en question totale et radicale. Ainsi, c'est la civilisation européenne dans la totalité de ses aspects qui a fait irruption au cœur de la civilisation autochtone. À la différence de la simple assistance technique qui entraîne une intervention circonscrite et limitée, la situation coloniale, et tout particulièrement l'Algérie, en raison de l'importance numérique de la société européenne, met en présence deux styles de vie, deux visions du monde, deux attitudes à l'égard des problèmes fondamentaux de l'existence. De fait, l'Européen apporte avec lui son univers, il impose un ordre propre au monde extérieur. Il propose, en chacun de ses comportements, en chacune de ses paroles, tout un système de valeurs et par là place les tenants de la civilisation traditionnelle en face d'une infinité d'alternatives. Il fait ainsi apparaître comme contingent ce qui semblait nécessaire, comme objet de choix, ce qui paraissait naturel. On retrouve cette idée que va apparaître par cette intronisation, par ce choc des civilisations, le naturel va apparaître comme objet de choix. Je prends ceci, encore un petit peu, je termine au moins cette partie pour que ça puisse faire sens. Voici, disons, encore en simplifiant, ce qui s'opère ici pour résumer ce que nous dit Bourdieu. On a, disons, une dialectique de la reproduction, un développement des forces productives, on va dire A, okay, qui est celui A comme Algérie, qui est le développement propre à l'Algérie. De l'autre côté, on a ce même développement, okay, dialectique de la reproduction B, comme Belgique, puisqu'on y est. Bon, en plus, nous, ce n'était pas l'Algérie, c'était un pays un peu plus au sud. Mais disons qu'on pourrait sans doute faire cette réflexion-là par rapport au Congo. En tous les cas, deux dialectiques qui sont distinctes. Et arrive un moment où une société va faire retour, et c'est là le choc des civilisations, sur une autre dialectique. C'est une, disons, un développement va entrer en choc, va venir faire choc avec une autre dialectique qui est, disons, celle-ci, l'Algérie des années 60. Disons, on a en rouge la France et en bleu l'Algérie. En outre, ce choc des civilisations est ici, dans le cas de l'Algérie coloniale, d'autant plus substantiel qu'eurent à s'y confronter deux visions du monde. On l'a vu dans le passage que je viens de lire. Deux visions du monde non seulement hétérogènes, mais radicalement antagoniques. La première, la civilisation colonisée, étant foncièrement, en ce qu'elle tend d'abord et avant tout à se reproduire, traditionnelle. Ou mieux, traditionnaliste. Là où, à contrario, la seconde, la civilisation colonisatrice, est quant à elle foncièrement révolutionnaire, au sens où, comme le remarque Marx dans un célèbre passage du manifeste du Parti communiste, sur lequel j'aurais voulu revenir, mais on n'aura peut-être pas le temps, ce sera peut-être pour demain, dans un célèbre passage du manifeste du Parti communiste, Marx note « Elle ne peut, cette société, exister sans révolutionner, c'est la société bourgeoise, sans révolutionner toujours plus avant les instruments de production, donc les rapports de production, donc l'ensemble des rapports sociaux. Le capitalisme, il ne se maintient que par une constante révolution de ses moyens de production, de ses rapports de production, de ses rapports sociaux. De sorte que, au sens strict, ce à quoi l'on y assiste en Algérie, à l'endroit donc, du monde, du mode de production importé, ce n'est non pas tant à une adoption, voire à une adaptation relativement passive, mais à une conversion. Et on revient sur ce terme de conversion, c'est-à-dire à une transmutation des valeurs. Je cite un dernier texte, et je m'arrêterai sur celui-là, de Pierre Bourdieu, qui nous permet de bien comprendre ici la différence qu'il y a avec le schéma que je viens de montrer, et je terminerai sur un autre schéma. L'effort d'industrialisation pure et simple, opéré par la colonisation, ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'importer ce modèle économique en Algérie. Tout au contraire. L'implantation d'industrie dans un pays économiquement sous-développé et dans une société coutumière, disons traditionnaliste, a des chances de provoquer des tensions et d'aggraver la désagrégation. Cependant, il est certain que l'accession à un niveau économique minimal, assurant à l'individu un minimum indispensable de prise sur le monde, est la condition nécessaire de la conversion psychologique culturelle par laquelle l'individu prend en main son propre destin. Pierre Moussa rapporte une observation faite dans une usine nord-africaine. Les salaires sont augmentés de 20%. Selon la logique de l'esprit pré-capitaliste, que j'appelle ici traditionnaliste, les ouvriers travaillent un cinquième en moins. Donc on augmente de 20% et donc les ouvriers travaillent un cinquième de temps en moins. Par la suite, on double les salaires, soit 240%. Et les conséquences de cette augmentation sont à l'opposé de celles qu'avait déterminé l'augmentation précédente. Comme si un seuil avait été franchi. Pierre Moussa parle de seuil de modernité. L'ouvrier montre l'envie de travailler. C'est important ici, toujours cette conversion à l'esprit capitaliste qui suppose une conversion au travail, l'envie de travailler, de gagner plus, de préparer l'avenir, d'épargner, etc. Alors, je passe juste, et je terminerai par là, c'est une bonne, un bon moment pour s'arrêter. On en arrive donc à cette transformation du schéma que je vous ai montré tout à l'heure, où l'on avait... Vous vous souvenez, on avait ici une autre, on avait deux dialectiques de la reproduction. On avait la reproduction ici à Algérie, disons, et on avait la dialectique de la reproduction des sociétés industrielles, okay, qui étaient importées, le modèle économique, la structure économique était importée en Algérie. Sauf que ici, le choc est d'autant plus important que ce n'est pas deux dialectiques de la reproduction qui s'opposent, puisque ici, l'on sort de cette dialectique de la reproduction et l'on passe à la révolution, à cette idée capitaliste que finalement les moyens de production, les rapports de production doivent constamment être révolutionnés. Et donc le choc de civilisation est d'autant plus fort entre les deux. Alors malheureusement ici je vais m'arrêter sur ce schéma, donc ce que j'expliquerai demain pour débuter avant d'en venir au numérique, parce que c'est important, parce que je n'ai pas encore totalement défini cette conversion, c'est ce qui se passe ici. C'est le moment où précisément la société industrielle capitaliste, la société capitaliste industrielle, réussit au travers d'une conversion au travail, une conversion au temps, et en l'occurrence au temps historique, et une conversion de la nature, réussit précisément à sortir de cette dialectique de la reproduction. Et donc elle sort, et précisément c'est après cette sortie que précisément ça va se jouer en Algérie. Et donc ce n'est pas seulement deux dialectiques de la reproduction, c'est une société qui a atteint, disons, un moment où elle est sortie de cette dialectique de la reproduction. Je ne donne pas ici de valeur mieux ou moins bien, demain peut-être, mais pas dans ce cas-ci, mais je ne dis pas qu'ici c'est mieux là ou là, je dis simplement que le choc est d'autant plus fort, puisqu'on a affaire à une dialectique de la reproduction et une société qui est sortie de cette dialectique de la reproduction, c'est-à-dire non pas seulement factuellement, comme on y sort parfois dans ces moments-ci, mais ici, elle en sort également principiellement. En principe, la société capitaliste ne peut plus être reproductive, elle doit être productive, elle doit constamment se révolutionner. Et donc, elle sort de cette logique, de cette dialectique de la reproduction. Ok ? Bon, je vais m'arrêter là. Je pense que on laissera pour demain les quelques pages qui me restaient à faire, que je résumerai demain au tout début. Voilà, on va rester à ceci. Merci.